Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Patience Ngalula. Madame, Messieurs, merci de choisir la fréquence de la paix pour vous informer. Au sommaire, casse-tête pour les agriculteurs du secteur Mouero dans les territoires de Poito d'évacuer leurs produits agricoles. Et pour cause, la dégradation avancée des routes des dessertes agricoles dans cette partie du Haut-Katanga. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, participe à la 17e conférence annuelle des banquiers et des financiers qui se tient à Abuja, au Nigeria. Daniel Moukoko a dit être pour l'élargissement des services financiers en milieu rural en RDC. L'invité de ce journal est le représentant résident de ONU Femmes en RDC. Adama Moussa parle de sa participation à la 7e édition de ministres provinciaux et de chefs des divisions du genre à Matadi. Bonjour à tous. Le secteur Mouero dans les territoires de Poueto, province du Haut-Katanga, est confronté aux difficultés d'évacuation des produits agricoles. Les routes de dessert agricole et celles qui mènent vers Kasomeno pour atteindre la ville de Lubumbashi sont dans un état de dégradation avancée. L'agronome principal du secteur plaide pour leur réhabilitation car certains agriculteurs se découragent et assistent impuissamment à la détérioration des fruits de leur récolte. Jean Gandou pour les détails.
Les principaux groupements où la production agricole est abondante sont notamment Kilomba, Mukupa, Mulimba et Kiala. On y cultive entre autres le riz et les haricots. D'après l'agronome du secteur, la production du maïs a sensiblement baissé car jugée non rentable. Un seau de 2,5 kg de maïs revient à 3 000 voire 3 500 francs congolais, pendant que la même mesure de riz coûte 6 000 voire 6 500 francs congolais. Et le principal centre de consommation est la ville de Lubumbashi. Cependant, les routes des dessertes agricoles sont en dégradation avancée. Conséquence, il y a des produits agricoles qui pourrissent. Certains agriculteurs qui perdent les fruits de leur labeur se découragent, nous renseigne l'agronome du secteur. Voilà pourquoi il lance un SOS aux autorités provinciales. Faustin Kabondo.
La production est bonne, mais ça décourage quand même du fait que pour cultiver beaucoup, mais pour évacuer, c'est tout un problème. La route numéro 5, à partir de Kasomeno jusqu'à Poueto, si le gouvernement ne se penche pas à ce point-là, pendant la pluie, il n'y aura pas de communication. Vous risquerez de faire des semaines ou un mois pour arriver à Lubumbashi.
Et pour contourner ces difficultés, il y en a qui recourent aux barges pour atteindre Kasenga et dès là, ils font transporter leurs produits dans les véhicules jusqu'à Lubumbashi. Une tâche qui n'est pas du tout aisée, souligne Faustin Kabondo. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et puis, après l'alerte du Krang sur les cauchemars des habitants à Kananga, après retour des pluies, l'Office de voirie et drainage indique ne pas avoir plus de ressources pour stopper différentes érosions. D'après les directeurs provinciaux de l'OVD, Kasaï Central, les 30% des fonds alloués par les FONER pour des travaux d'urgence sur la ville se sont épuisés. Jimmy Kula indique que les plaidoyers sont en train d'être menés pour que le reste d'argent soit débloqué pour permettre à l'OVD de continuer et stopper certaines érosions qui menacent la ville. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Nous n'avons plus de fonds. Sur ce, nous avons sonné la sonnette d'alarme, nous avons écrit à l'autorité provinciale ainsi qu'à l'autorité nationale. Nationale, nous voyons la direction générale de l'OVD et par la direction générale, nous voyons aussi au-dessus de le ministère de tutelle, le ministère des ITP qui a sous sa tutelle le FONER qui a eu à débloquer les moyens pour qu'il y ait une suite de mise à disposition de fonds. À ce jour, nous pouvons dire que nous sommes toujours en attente. C'est la raison d'être de l'arrêt des travaux sur tous les sites. Nous avions circoncis des sites qui étaient vraiment touchés, à l'occurrence Kanyoka Village, Asda, ISTK, là où la route était complètement coupée. Bianchi aussi, c'est une grande érosion. Il y a Efo, la route d'Efo. Et le dernier site dont nous avions couplé, c'est l'avenue Kambala ainsi que le site Kamulumba où il y a des entretiens. Ce sont là les sites que nous avions ciblés pour travailler en urgence.
17e conférence annuelle des banquiers et des financiers à Abuja, au Nigeria, avec ses constats du vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui représente le chef de l'État. Pour Daniel Moukoko, notre économie est encore en cours de formalisation et l'accès aux services bancaires reste limité, notamment dans les zones rurales. Les secteurs informels dominent encore largement, ce qui rend difficile pour de nombreuses petites entreprises d'accéder au financement nécessaire à leur croissance, affirme-t-il. Les vice-premier ministre, ministre de l'économie, ajoute que la coopération entre les deux pays permettra de relever les défis de l'élargissement de l'accès aux services financiers et l'inclusion bancaire, surtout en milieu rural. Il est dit dans cet extrait choisi par Blaise Makassi.
J'ai donc pris part à cette 17e conférence de l'Association nigériane des banques pour représenter le chef de l'État qui avait été invité par cette association. Le message du chef de l'État que j'ai délivré aujourd'hui, c'est un message de collaboration, un appel à la collaboration, au partenariat entre le Nigeria et la République démocratique du Congo. Comme vous le savez certainement, parce que nous avons déjà en RDC la présence de 4 ou 5 banques nigérianes, le Nigeria a en effet bâti un système financier national solide avec des banques nigérianes qui sont aujourd'hui en international. Et il est clair que la RDC a beaucoup à apprendre du Nigeria, notamment dans des domaines comme l'inclusion financière, parce que le taux d'accessibilité aux services financiers est trop faible chez nous, surtout dans les milieux ruraux, qui en ont déjà développé des produits, des instruments qui leur permettent de faire accéder aux services financiers même les populations les plus reculées.
Ici à Kinshasa, au lendemain du lancement de la grève des inspecteurs, cadres, agents ainsi que intervenants aux évaluations certificatives de l'éducation nationale, les conséquences se font déjà sentir. Des documents scolaires seraient abandonnés au niveau des signataires. Ces grévistes réclament notamment le paiement de leurs primes. L'inspecteur général de l'éducation nationale assure que les gouvernements s'y attellent déjà pour une solution idoine aux revendications des grévistes. C'est un reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
Réunis au sein du syndicat des administratifs et enseignants du Congo, SIADEC, ces grévistes parmi lesquels les compositeurs, examinateurs et correcteurs des épreuves certificatives se disent être fatigués d'attendre les promesses du gouvernement. Ils se plaignent également de l'indifférence de l'État malgré leur volonté de travailler pour le pays, comme indique l'un d'eux, Angèle Paenzo.
À la première ministre, chef du gouvernement, de payer aux inspecteurs et intervenants aux examens d'État les arriérés de leur prime 2. Centre national d'organisation CENON 2022 et 2024. Centre national de correction CNC 2022-2023 et 2024. ENAFEP 2021-2022-2023 et 2024.
TENASOSPE 2022-2023 et 2024. Pour sa part, l'inspecteur général de assure que les gouvernements s'attellent pour répondre aux désiderata non seulement des inspecteurs, mais également de tous les enseignants. Odia Musungai.
Je confirme qu'on paye incessamment une partie des TENAFEP. Les solutions sont là. J'espère que nous irons comme ça, sans relâche.
Certains parents de Kinshasa disent déjà être en difficulté de retirer les documents scolaires de leurs enfants à l'inspection générale de l'éducation à la suite de cette grève.
Sans plus tarder, rendons-nous dans la province du Nord Kivu, où le commissariat provincial de la police nationale congolaise a reçu hier mardi 10 septembre 2024 une dotation en matériel de protection des policiers durant les activités de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Il s'agit d'une donation de la MONUSCO visant à renforcer les capacités de la police nationale congolaise dans sa mission de protection des populations civiles. Les lots remis ces jours comprend des genouillères et des matraque. C'est le commissaire provincial adjoint de la police au Nord Kivu qui a réceptionné ces matériels des mains de la chef par intérim de la composante police de la MONUSCO, le colonel Yulia Kim. Restons au Nord Kivu, cette fois à Beni. Une trentaine de femmes vulnérables survivantes des massacres dans la ville et les territoires de Beni ont achevé ce mardi 10 septembre une formation de 2 mois en coupe et couture. Organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme de la MONUSCO, cette initiative a permis à ces femmes de recevoir des kits pour la couture ainsi qu'une enveloppe financière pour démarrer leurs activités et soutenir leur autonomie. Sifa Salomé Tachop, l'une des bénéficiaires, nous parle de l'importance de cet outil de travail au micro de Marc Marofimbo.
Nous avons fini la formation. Maintenant, nous disons merci au MONUSCO pour ce qu'il veut de nous faire aujourd'hui. Précisément, le Bureau du droit de l'homme pour nous encadrer, pour participer aux formations qu'il vient de nous donner aujourd'hui et recevoir aussi les brevets de mérite ainsi que les machines pour commencer notre vie future aussi. Avec la machine que la MONUSCO vient de nous donner, moi, de ma part, premièrement, mon mari n'a pas de travail. Et puis, ça va m'aider aussi pour bien garantir mon foyer et scolariser les enfants, les soins médicaux avec la machine que la MONUSCO vient de nous donner. Je veux ouvrir un atelier pour commencer aussi à trouver quelque chose pour aider ma famille.
À noter que cette formation a été menée par l'Institut national pour la préparation professionnelle INPP avec le soutien juridique du Great Lakes Human Rights Programme, une organisation de défense des droits de l'homme partenaire de la MONUSCO. La ville de Beni toujours, qui abrite près d'un million d'habitants et se développe rapidement, est confrontée à un défi majeur, l'absence de numérotation des parcelles pour la plupart des adresses. Cette situation complique non seulement la vie quotidienne des résidents et des visiteurs, mais elle rend également difficile la localisation des lieux, ce qui pose de sérieux problèmes en cas d'intervention d'urgence des forces de défense et de sécurité. C'est un reportage de Martial Papimoukeba.
À Beni, les rues et avenues sont inondées de monde, mais un problème persistant assombrit le dynamisme de cette ville, l'impossibilité de localiser une adresse. En l'absence des noms de rues claires et des numérotations des parcelles, trouver la personne ou le service recherché devient un véritable casse-tête. Une situation qui amplifie également la vulnérabilité des habitants, comme l'explique cet habitant.
Nous n'avons pas de numérotation sur nos maisons, mais aussi il y a des avenues où vous n'allez pas trouver même les noms. Quand il faut donner l'adresse aux gens même de la sécurité, ils ont même les difficultés de venir vous secourir parce que tout simplement, nous n'avons pas de référence dans cette ville.
Face à ces problèmes, le bourgmestre de la commune de Moulekera a lancé récemment une opération de numérotation des parcelles dans sa municipalité, souvent secouée par l'insécurité. Dieudonné Mayanga précise.
C'est un moyen d'aider à nos services de sécurité, de pouvoir intervenir avec précision sur les avenues bien dénommées. L'opération est en cours.
En attendant, chaque coin de Beni sans repère montre que le chemin vers une ville ordonnée reste long. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Direction la province de l'Ituri, dans les territoires de Mambasa, environ 20 corps ont été découverts mardi dans les localités de Lianga, en chefferie de Babila-Babombi. Selon des activistes de droits humains dans la région qui citent les deux rescapés, ces personnes ont été abattues dans la nuit de dimanche à lundi par des maïmaï de la faction Douma UPLC, un groupe armé supplétif de rebelles des ZDF. Parmi les victimes, il y a quatre femmes et des enfants, dont la plupart ont été décapités, le même source. L'administrateur du territoire de Mambasa promet de vérifier ces informations auprès de ses services avant de se prononcer. Entre-temps, des acteurs de la société civile sollicitent l'intervention des autorités militaires pour aller chercher les corps de victimes qui gisent toujours au sol sur les lieux du drame. C'est pour qu'ils soient enterrés dignement. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Entre-temps, en territoire de Niragongo, un élève de 7e année a été tué et deux autres blessés par balle dans la matinée ce mercredi à Kanyaruchinya, dans les territoires de Niragongo. Selon diverses sources sécuritaires locales, deux présumés Wazalendo s'est disputé à côté de l'Institut Mugara où les victimes étaient en plein cours. Ces bandits armés qui courent encore ont ouvert le feu, tuant et blessant des écoliers dans la salle. Et cet accident a mis fin aux activités scolaires de la journée dans cette partie de Niragongo et provoqué des manifestations de la part des élèves toute la matinée. La circulation illégale des armes et des présumés Wazalendo devient un sérieux problème de sécurité dans cette zone, indique la société civile. Au Kasaï oriental, clôture officielle hier mardi à l'école de police à Chipuka par les gouverneurs des provinces de la formation de 103 officiers des polices judiciaires, dont 3 femmes. Cette formation de 3 mois organisée par l'Organisation internationale des migrations OIM rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de police de proximité et professionnalisation de la police financée par le département d'État américain. Des explications avec Esther Ndalafina.
Sur les 103 officiers de police judiciaire admis à l'école de police de Chipuka, à plus ou moins 20 km de Mbujimayi, 91 ont réussi au test d'évaluation. Parmi eux, 15 policiers proviennent des 5 territoires que compte la province du Kasaï oriental. Ils ont à cette même occasion prêté serment auprès du procureur de la République du parquet près le tribunal de grande instance de Chilenge. Maître Pierrot Ntumba, assistant au projet gouvernance sécuritaire à l'OIM, IM Kasaï Oriental a indiqué que durant 3 mois de formation, ces officiers de police judiciaire ont appris plusieurs notions dont notamment le droit pénal général et spécial, la procédure pénale, les techniques d'enquête criminelle, la rédaction des procès verbaux pour ne citer que ça. Le gouverneur de province qui a présidé la cérémonie de clôture a demandé à ses officiers d'être juste, honnête, loyal et respectueux des textes et lois de la République. Signalons que cette formation est la 6e phase du projet de police de proximité et professionnalisation de la police implémenté par l'OIM avec le financement du département d'État américain via le Bureau international de lutte contre les stupéfiants et l'application des lois INL. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale. C'était attendu comme l'événement majeur de la course à la Maison Blanche, Donald Trump et Kamala Harris face à face pour le premier débat des campagnes. Il a eu lieu hier mardi à Philadelphie. Immigration, économie, avortement et autres étaient au menu de cet échange. À la fin de ce débat, Kamala Harris est allée galvaniser ses supporters. À 2 mois de l'élection présidentielle, les deux candidats ont exposé leur vision diamétralement opposée, avec parfois une dose d'allégations qui font débat. Donald Trump affirme par exemple que des migrants mangent des chiens et des chats dans une ville de l'Ohio.
L'invité.
Le représentant résident de l'ONU Femmes en RDC, Adama Moussa, a participé à la 7e édition de ministres provinciaux et de chefs des divisions du genre à Matadi. Dans cet entretien qu'il a accordé à Karine Topé-Ridassi, il parle des 3 mandats de l'ONU en RDC avec ses interventions dans les 5 grands domaines critiques où les inégalités envers les femmes sont criantes. Suivez.
Monsieur Adama Moussa, bonjour.
Bonjour.
L'ONU Femmes accompagne le gouvernement dans sa lutte pour la promotion du genre ainsi que pour la promotion et la protection des droits des femmes. Pouvez-vous nous décrire la nature de l'accompagnement d'abord de ONU Femmes mais aussi du collectif One UN en RDC?
Je crois que ce qui est important, c'est déjà de comprendre le mandat de ONU Femmes. ONU Femmes a 3 mandats, ce qu'on appelle le tripartite mandate. Ce mandat porte sur l'amélioration du cadre normatif, c'est-à-dire tout ce qui concerne les politiques, les stratégies, en lien avec le cadre international. Un appui au gouvernement, c'est vraiment l'amélioration du cadre normatif. Le deuxième appui, c'est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de coordination, parce que vous avez beaucoup d'intervenants dans le domaine du genre, donc il était extrêmement important pour nous, en tant qu'agence normative, de pouvoir accompagner le gouvernement dans le cadre de notre mandat de coordination, ce qui explique aujourd'hui, par exemple, ces 2 forums. Et notre 3e mandat, c'est un mandat opérationnel. Un mandat opérationnel, c'est là où on a des gaps importants. C'est-à-dire quand on analyse les politiques, les stratégies, les interventions, on se rend compte que les inégalités déjà sont critiques dans quelques domaines. Et pour la RDC, on a identifié 4-5 domaines critiques pour lesquels il nous faut avoir des interventions. Et ces interventions peuvent être sous forme de projets catalytiques, sous forme de projets conjoints, en partenariat avec les autres partenaires.
Quels sont les domaines critiques?
Le premier domaine, c'est la participation politique et le leadership féminin. C'est-à-dire que si vous regardez les statistiques en RDC, mais aussi dans l'ensemble de ces pays, vous allez trouver que la sous-représentativité des femmes, que ce soit au niveau des instances de prise de décision, électif comme nominatif, est extrêmement criante. Donc ça devient un domaine critique d'intervention verticale de ONU Femmes. Le deuxième domaine critique par rapport surtout à l'intervention de ONU Femmes, c'est tout ce qui concerne la réduction de la vulnérabilité économique des femmes. On sait que les femmes ont très peu de ressources économiques qui leur permettent d'améliorer les conditions de vie. Donc l'amélioration des conditions de vie à travers la mise à disposition des ressources, que ce soit les ressources financières, est un domaine extrêmement important. Parce que vous ne pouvez pas demander, exiger de la promotion des femmes sans réduire la vulnérabilité économique. Donc ça, c'est le deuxième domaine critique. Le troisième domaine critique, c'est la violence. Vous savez, quand vous prenez les statistiques, un cas de violence est déjà un cas de trop. Mais par rapport à la République démocratique du Congo, toutes les statistiques démontrent qu'on a vraiment dépassé tout ce qui est du seuil même tolérable en termes de violence. S'il y a des seuils tolérables, il n'y en a pas. Et ce qui fait que les violences sont rampantes. Que ce soit les violences liées au conflit, que ce soit les violences domestiques, que ce soit les violences physiques, que ce soit les violences économiques, c'est un domaine réellement critique en RDC. Vous ne pouvez pas demander la participation politique des femmes dans un environnement où elles ne se sentent pas sécurisées, où elles ne se sentent pas à l'aise pour jouir de l'ensemble de leurs droits. La question femmes, paix et sécurité, vous avez beaucoup de processus de paix, leur implication, leur adhésion, que ce soit en termes d'actrice de la paix, ça c'est aussi un domaine critique. Et le dernier domaine, c'est la question de l'humanitaire. Vous voyez un peu tous les flux en termes de mouvement des populations déplacées. Les femmes constituent pratiquement 60 à 70% des populations déplacées. Pour nous, c'est un domaine critique. Voilà les cinq domaines critiques où nous pensons que les inégalités déjà sont criantes, où nous développons des interventions, et c'est ce qu'on appelle notre mandat opérationnel.
Et vous avez affirmé dans votre mot d'ouverture de la 7e édition du Forum des ministres provinciaux et chefs de division de genre que l'intégration effective du genre dans les politiques publiques est une question de justice sociale. Qu'entendez-vous par le terme justice sociale?
Vous savez, il y a deux choses quand on travaille sur les inégalités. Il y a les inégalités de jurée, donc ce qui est dans la loi, et il y a les inégalités de facto. Les inégalités de jurée sont généralement corrigées quand on adopte un certain nombre de textes réglementaires ou de textes juridiques pour corriger ces inégalités-là. Les inégalités de facto sont des inégalités qui sont vécues dans le quotidien. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on a un cadre normatif réel, ces inégalités persistent. Donc la question de la justice sociale intervient. C'est-à-dire qu'avant, on disait que les femmes ont droit à. On élabore des lois, on leur propose des droits pour mieux les protéger. Malgré tout ça, on se rend compte que les femmes ne jouissent pas ces droits-là. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays au monde qui peut dire qu'il peut se développer sans la contribution significative des femmes. Donc la question de la justice sociale, c'est la reconnaissance de cette contribution-là en termes de droits.
Monsieur Adama Moussa, je vous dis merci.
Merci à vous aussi, madame.
Et c'est la fin de cette session des nouvelles sur Radio Kapi. Jean-Claude Ntiala, la mise en onde sous la supervision et coordination de Peleki Pelamondo et Élisée Chukota Chivueta. À la présentation, Patience Galulambombo. Fidèles auditeurs, merci de l'avoir suivi.